Merci à André et au réseau Environnement Santé de m'avoir invité. Merci à la Mutualité également pour cette invitation. Et merci à nos chers députés pour nous offrir le toit. Je vais vous parler d'une étude de biomonitoring qui est une étude pilote en France sur le biomonitoring de bisphénol A. Cette étude a fait l'objet d'une publication récente en octobre 2012 dans Pollution atmosphérique. On remercie les professionnels de santé qui se sont impliqués dans cette étude, qui a été financée pour 80% par le Conseil régional et 20% par l'Agence régionale de santé. Quel était le protocole de cette étude ? Objectifs principaux, c'était d'étudier l'imprégnation en bisphénol A de la population étudiée et évaluer la diminution de cette imprégnation par des changements de comportement alimentaire, en partant du postulat que la principale source de bisphénol A, ou en tous les cas une des principales, c'était la voie alimentaire. On s'était dit qu'en donnant des conseils d'éviction de ces produits contenant du bisphénol A et qui nous intoxiquaient par voie alimentaire, on pouvait être amené peut-être à noter une diminution de leur taux d'imprégnation. Alors voilà les sujets volontaires recrutés. Il y en a eu 48 recrutés dans deux centres, hein, à Somain avec le docteur Simoneau, à Saint-Omer avec moi. C'était des consommateurs de BPA, vous voyez que j'ai mis ça entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'était dit qu'avant d'évaluer une diminution de l'exposition alimentaire au bisphénol A, fallait-il s'assurer, si tant est qu'il faille le faire, que ce soit des consommateurs habituels de bisphénol A, et on a créé un score semi-quantitatif d'exposition. Et les patients qui étaient inclus dans cette étude avaient un score journalier supérieur à 0, à 3, ou égal à 3. Alors voilà comment ça a été fait. Vous voyez, quelqu'un qui consommait une canette de boisson en canette d'aluminium, c'était 1 par canette. Bouilloire, conserve, plat en plastique, eau filtrée, voilà. Bon. Et donc, en fonction de la consommation, on estimait un score. Et on a inclus des patients qui étaient supérieurs ou égaux à 3. Vous voyez qu'on a quand même inclus quelque chose qui n'a rien à voir avec l'alimentaire, c'est la profession, parce qu'on avait été sensibilisé par, à l'époque, une publication récente sur le taux de bisphénol A qui était plus important chez les caissières. Et vous verrez qu'on avait peut-être une prémonition sur les résultats. Les prélèvements ont été faits sur des urines entre 17 et 19 heures parce que faire un prélèvement matinal pour des produits qui sont éliminés en 4 à 6 heures, ça ne nous paraissait pas être un bon coup, en tous les cas pour ceux qui ne se lèvent pas la nuit pour boire et manger. Les prélèvements étaient bien sûr mis dans des flacons qui ne contenaient pas de bisphénol A et ils ont été réalisés à J1, jour d'inclusion, et au bout de 7 plus ou moins 2 jours, après les recommandations d'éviction alimentaire d'exposition. Ces urines étaient congelées avec un respect de chaîne de froid et analysées par un laboratoire, on a eu bien du mal à le trouver celui-là, en Allemagne, avec une analyse du BPA total, donc libre et ses métabolites, avec une technique enzymatique de référence. Voilà les conseils d'éviction. Bon, en fait, c'est les conseils qu'on connaît habituellement, enfin de d'exposition possible avec les plastiques 3, 6, 7. C'est ce petit triangle qui identifie les plastiques. Ça nous donne l'occasion de préciser qu'on devrait, nous, en tant que consommateurs, savoir ce à quoi on est exposé. Or, il y a beaucoup de plastiques qui ne sont pas identifiés. Et par exemple, les tétines, puisque vous parliez tout à l'heure, malheureusement, il n'y a pas toujours le petit triangle qui permet de savoir à quelle sauce on va faire manger nos petits chéris. Donc ça, c'est un droit, je pense, du consommateur. Hein. On oblige bien, dans les allergies alimentaires, les producteurs de dire s'il y a de l'arachide ou pas. On pourrait imposer quand même les producteurs, au moins à ça, pour éviter une intoxication. Donc, bon, les canettes aluminium, vous connaissez tout ça, conserve, les réchauffer dans les plats en plastique, en micro-ondes, vous savez la catastrophe que c'est avec la température, les bouilloires en plastique et les filtres à café en plastique. Alors là, c'est très difficile, ça fait des années que je cherche une cafetière qui permettent de ne pas exposer la famille au bisphénol A, et j'ai toujours pas trouvé. Il faudrait revenir à des anciens trucs avec des filtres en verre ou en céramique avec un filtre, et puis on fait chauffer son doigt à côté, façon grand-mère. C'est pas toujours pratique quand on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, c'est peut-être ce à quoi on va aboutir. Vous savez, changer les habitudes, c'est pas toujours facile, même chez soi. Quels sont les résultats de cette étude? Eh bien, d'abord la population, vous voyez qu'elle est jeune quand même, 41 ans en moyenne. On n'est pas trop gros, avec des extrêmes quand même, 49 à 125. Et première réponse à nos questionnements initiaux, nos deux questionnements initiaux, quel était le taux d'imprégnation de cette population? 87,5%. C'est un petit échantillon, hein, 48, mais ça rejoint des études épidémiologiques beaucoup plus larges, comme celle de Calafate. Il n'y a pas eu d'effet centre entre Saint-Omer et Semain, même combat, c'était la même chose. Les taux, vous voyez, étaient extrêmement variables. Il y en a quand même qui étaient un peu chargés, à 11,2, par rapport à d'autres qui étaient juste à la limite du significatif. Et le taux moyen, cependant, de 2,9 microgrammes par litre, était identique à d'autres publications, beaucoup plus larges là aussi, comme celle de Calafate et du bulletin épidémiologique hebdomadaire. Vous voyez que sur les 48, il n'y en avait que 16 qui n'étaient pas imprégnés avant éviction, et il n'y en avait que 15 après éviction. On est chargé. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent la présence de bisphénol A? D'abord, l'exposition alimentaire. Est-ce que notre score, il avait quelque chose à voir avec les taux de bisphénol A? Vous voyez qu'on ne retrouve qu'une tendance, avec un P à 0,07, a influencé la positivité du taux de bisphénol A, et ce, uniquement pour le taux avant éviction. Ce qui laisse à penser, déjà, là où on en est, qu'il y a peut-être d'autres sources de bisphénol A, peut-être aussi importantes que la voie alimentaire. On y reviendra. La morphologie, vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de bisphénol A, moyen, avant, après exposition, et le poids, la taille, l'IMC. Il n'y a qu'une corrélation limite entre ce taux moyen de bisphénol A et l'obésité. C'est le seul lien un peu limite avec un P0,05. Pas de corrélation entre positivité du taux de bisphénol A et le poids. Alors, comment expliquer cette corrélation limite? Est-ce que, peut-être, parce que quand on est obèse, peut-être qu'on mange un peu plus que les autres, et que de ce fait-là, on a des taux un petit peu plus élevés. Mais ce n'est qu'une hypothèse qui ne vaut peut-être pas grand-chose. Et quels sont les facteurs expliquant la présence du bisphénol A? D'abord, l'âge. Eh bien, il n'y a aucun lien. Le sexe, vous voyez qu'on avait 19 hommes, 29 femmes. Alors, on a fait des études différenciées. Les femmes, donc, globalement, sont aussi imprégnées que les hommes. On a eu la chance d'avoir 7 couples. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence au sein de ces couples entre hommes et femmes. Et par contre, il existe un lien entre le taux après éviction, hein, donc au bout de 5 à plus ou moins 2 jours d'éviction alimentaire, et le sexe féminin, ce qui laisse supposer que les femmes sont peut-être exposées à des sources spécifiques, un peu plus spécifiques, et il y a des voies de réflexion. Quels sont les résultats de nos conseils? Parce que, bon, on a donné des conseils, est-ce que c'est efficace? Mais vous voyez que, déjà, uniquement 6 sur les 48 ne sont pas imprégnés. Et le reste, seulement 6 non imprégnés au départ, et il reste non imprégnés après éviction. Il y en a 18 sur 48 qui ont un taux qui baisse. Par contre, vous voyez que la majorité ont un taux qui augmente après éviction. On ne s'attendait pas à ça. Hein. On s'est bien gratté la tête. Contrairement à ce qui était attendu, donc l'éviction de l'ingestion du BPA en évitant les sources habituellement identifiées dans l'alimentation ne sont pas traduites par une chute d'imprégnation pour tous les sujets. Alors, quelles sont les hypothèses? Suspense. D'abord, est-ce que l'éviction n'était pas suivie? C'est vrai que les patients, on les a pas mis en cage. On n'a pas donné de la nourriture contrôlée. Quand je dis en cage, je suis à l'hôpital. on n'a pas contrôlé leur alimentation, et donc on peut se dire qu'on n'a pas été dans l'éviction, on ne l'a pas contrôlé. Cependant, l'ensemble des sujets qui ont été inclus étaient très motivés, et parmi ceux-là, il y en avait 4 médecins qui étaient encore peut-être plus motivés et qui ont vu, eux, leur taux augmenter. Alors, autre question, est-ce qu'en fait le laboratoire était fiable? Bon, le laboratoire a une réputation internationale et ils ont accepté de refaire certains dosages qui étaient cohérents avec les premiers. Troisième question, est-ce que le BPA s'est accumulé entre les deux prélèvements? La cinétique du BPA ne va pas dans ce sens-là, puisqu'elle est éliminée en 4 à 6 heures. Et sa faible absorption dans les graisses ne plaide pas en faveur de cette hypothèse, une référence bibliographique de Lang. Quatrième possibilité, et j'avoue que c'est celle-là qui a peut-être retenu le plus notre attention, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sources de BPA qui seraient elles aussi importantes que la voie alimentaire? Et parmi les quatre médecins qui ont vu leur taux augmenter, il y en avait un qui était pneumologue. Et il s'est demandé d'où ça pouvait venir. Et au bout de quelques temps, il a ouvert les yeux. Il a regardé. Alors voilà un pince-nez. Voilà des filtres utilisés pour faire souffler les gens, stéthoscope, rouleau de scotch, la bureautique à laquelle on est tout exposé, des appareils radio, gaz du sang, seringue, barquette triangle 6, appareil pour mesurer la saturation en oxygène, traitement contenant du bisphénol, lancette pour faire des tests allergologiques. Et donc peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, que la voie cutanée a autant d'importance que la voie alimentaire. Ça n'est qu'une hypothèse. Alors, en conclusion, je dirais que le nombre de sujets est faible par rapport aux autres études épidémiologiques, mais que le taux d'imprégnation est cependant proche des études plus larges, qu'on ne s'attendait pas du tout à ces résultats, et que de ce fait-là... Alors, je n'échappe pas à la connexion Internet non souhaitée. Et donc, une autre étude va débuter en Île-de-France qui est financée par la Mutualité, que je remercie au passage, qui nous fournit et des finances et aussi une aide humaine non négligeable. Et donc cette étude va porter à peu près sur un nombre à peu près identique, une cinquantaine de patients. Et là, on va améliorer encore les choses, c'est-à-dire qu'on va faire un double dosage du bisphénol A avec un contrôle, à la fois méthode enzymatique de référence radio-immunologie, Deftalate 3, on va tracer la congélation, c'est important parce que congélation, décongélation, ça perturbe considérablement les taux. On va faire deux groupes d'âge, un très jeune, puis un peu moins jeune, pour voir s'il y a des différences entre les deux générations. Et puis on va respecter la parité des sexes. Alors vous allez me dire, pourquoi un pneumologue s'intéresse à un truc comme ça, quoi, hein? Eh bien, c'est parce que, en fait, la profession médicale, elle a un petit peu marre de traiter des pathologies. Alors c'est bien d'être curatif et de traiter de mieux en mieux les gens, et je vais rejoindre d'autres propos, mais que la meilleure des traitements, ça reste la prévention primaire, c'est-à-dire de ne pas être malade. Je vous remercie pour votre attention.